l'émission Écho de la solidarité internationale, présentée par la Maison des territoires du monde et de la solidarité internationale.
Bonjour, c'est aujourd'hui Michel Collomb qui vous présente l'émission de la MTMSI. Mon interlocuteur aujourd'hui sera Pierre Bourguet, qui est le responsable local pour la région de Montpellier de l'association, du collectif plutôt, Éthique sur l'étiquette. Ce collectif qu'il va nous présenter est né en 1995 et réunit des associations qui s'occupent des droits humains au travail. Alors Pierre, la parole est à toi.
Alors, donc ce collectif, effectivement, tu l'as rappelé, ça date de 1995 au niveau national et aussi pratiquement assez rapidement au niveau montpelliérain. C'est donc un collectif d'associations de solidarité internationale, comme le CCFD Terre Solidaire, Artisans du Monde. Il y a aussi des syndicats avec la CFDT, des associations de consommateurs, la CECO-CFDT. Il y avait aussi, il y a toujours le Centre de documentation Tiers-Monde, et il y avait le mouvement pour la paix et le désarmement de nos amis Guyot. Alors, voilà, et maintenant nous sommes aussi en partenariat avec ATTAC et pour la régulation et la transparence des multinationales.
Tu as parlé de nos amis Guyot, je précise que c'est Madeleine et Guy Guyot.
Oui, tout à fait.
Et ils sont membres anciens et on a eu malheureusement le décès de Madeleine tout récemment. Voilà. Et il y a justement un livre qui a été publié par Pierre Bourguet aux éditions de l'Harmattan qui s'appelle « Une vie d'engagement, Madeleine et Guy Guyot ».
Oui, c'est un petit texte que j'ai produit l'année dernière et donc qui est sorti malheureusement juste après le décès de Madeleine, ouais. Mais et qui se veut un témoignage de la vie vraiment militante voilà. De Guy et Madeleine qui ont été des militants depuis leur jeunesse et jusqu'à leur fin. Enfin, ouais. Guy est encore parmi nous et donc il continue d'ailleurs. Ouais.
Donc tu reviens à ce collectif Éthique sur l'étiquette.
Oui. Alors, donc, ce collectif a donc comme mission le respect des droits humains au travail dans les industries du Sud, notamment l'industrie textile, et également donc l'information des consommateurs pour une consommation responsable ou éthique, et la régulation aussi des multinationales qui sont les maîtres d'œuvre, les donneurs d'ordre de cette industrie et donc qui a connu depuis 20 ans à peu près une explosion de la consommation puisque la production et la consommation de textiles a doublé depuis 20 ans. Et il faut savoir que ce n'est pas innocent de savoir que c'est parti après, en 2005, il y a eu la fin des accords multifibres. Alors ce sont des accords qui protégeaient l'industrie textile des pays développés, des pays du Nord, je précise bien, contre justement les industries à bas coût des pays du Sud. Et ces accords multifibres qui avaient été mis en place en 1974 ont été abolis en 2005. Pourquoi ? Parce que on était en pleine mondialisation néolibérale après la chute des pays soviétiques et socialistes et de libéralisation complète avec des traités aussi de libre-échange, la constitution de l'OMC, etc. Voilà, donc à partir de là, l'industrie textile s'est construite sur un modèle qu'on a appelé la fast fashion, la mode rapide, c'est-à-dire proposer aux consommateurs des produits en quantité énorme et également des collections, des modes différentes qui se succèdent de plus en plus rapidement et avec une publicité pour inciter à la consommation qui est absolument effrayante. Donc voilà ce modèle qui donc se base sur une production et une consommation démultipliées, sur des coûts de production très bas, ça implique, et dans des délais très rapides. Et tout ça fait que ce sont des conditions qui ne sont pas compatibles avec le respect des droits humains au travail et également du respect de l'environnement. Parce que les délais imposés par des sociétés multinationales qui sont en fait les marques, les grandes marques de textiles d'habillement, à leurs entreprises, à leurs filiales ou fournisseurs et sous-traitants, ces délais en temps, en qualité et en coût sont tels qu'ils imposent en réalité aux industries textiles, aux travailleurs sur place, dans les pays du Sud, des conditions de travail et des salaires absolument scandaleux. Ouais. Voilà.
Tu peux préciser quels sont ces pays du Sud dont tu parles?
Ces pays du Sud, c'est essentiellement la Chine, mais ouais. C'est aussi beaucoup de pays d'Asie du Sud, le Bangladesh, le Cambodge, le Vietnam. Voilà. Surtout, il y a aussi la Birmanie, mais la Birmanie est dans un triste état actuellement. Il y a d'autres pays, il y aurait l'Éthiopie aussi à citer, le Kenya. Bon, mais
les principaux sont plutôt
en Asie du Sud-Est. Ouais, voilà. Ouais. Donc, et en Inde aussi. Donc ce modèle-là, ce modèle de fast fashion, de mode rapide, en fait est extrêmement négatif pour ces aspects de droit du travail. Je rappelle qu'il y a des conventions internationales de l'OIT qui s'appliquent normalement à tous les États. Tous les États ne sont pas obligés de ratifier toutes les conventions de l'OIT, mais il y en a un certain nombre. L'interdiction du travail des enfants, l'interdiction du travail forcé, la liberté syndicale. Un cadre général qui s'appelle le travail décent, c'est un concept de l'OIT qui doit être respecté, même si on n'est pas adhérent à l'OIT ou si on ne ratifie pas les conventions. Bon, donc ça, ce n'est pas respecté du tout, puisque justement ces entreprises multinationales s'appuient sur des conditions de travail absolument indignes. Par ailleurs, l'impact environnemental de l'industrie textile est catastrophique, surtout dans cette mode de production, ce modèle économique de production et de consommation à outrance, puisque l'industrie textile est la deuxième industrie la plus polluante au monde, derrière le pétrole. Elle émet plus d'un milliard de CO2 par an, bilan carbone épouvantable. Elle est la troisième consommatrice d'eau également dans le monde. Bon, et qui dit consommation d'eau dit également pollution des eaux, des eaux usées. Ouais. Donc là aussi, l'industrie textile est responsable de 20% de la pollution mondiale des eaux. Ces pollutions continuent avec le plastique, puisqu'il y a à peu près 500 000 tonnes de microplastiques relâchées dans les océans. La production, il y a aussi de la chimie, puisqu'il y a énormément de fibres synthétiques, des produits chimiques dans la constitution des fibres synthétiques, polyester, nylon, etc. Donc c'est très mauvais. C'est pas le plus négligeable, c'est le gaspillage. Ouais. 80% des vêtements sont jetés.
Alors justement, là, est-ce qu'on doit parler uniquement des producteurs, ou bien est-ce qu'on doit parler aussi des clients et de cette clientèle qui achète sans compter des choses qui
paraissent
avantageuses?
Absolument. L'offre et la demande sont corrélées et malheureusement, donc, on a des marques, des entreprises extrêmement puissantes qui peuvent imposer, je dirais même aux États, des conditions. Donc on l'a vu avec ce qu'on appelle la mondialisation néolibérale dont j'ai parlé tout à l'heure. Elles ont réussi à finalement imposer un certain nombre de... imposer leur modèle économique et on est en train de programmé maintenant pour réguler. Et par ailleurs, les consommateurs sont évidemment aussi, ont une part de responsabilité, mais il ne faut pas culpabiliser, parce qu'effectivement, on comprend très bien que pour des ménages modestes, eh bien, un t-shirt à bas coût, c'est ce qui va acheter.
Bon, c'est une fabrication du...
Le problème... C'est ouais. que c'est pas qu'on achète un ou deux t-shirts et jeans par an, c'est que beaucoup de gens en achètent beaucoup trop. Et finalement, ils ne les mettent pas, ils les jettent. Donc ça, c'est le gaspillage. C'est cette surconsommation qui est totalement négative. Et la surconsommation est également due au fait que la qualité des produits n'est pas bonne.
Mais quand tu parles
généralement de ces produits-là.
Quand tu parles de gaspillage, tu fais bondir les théoriciens du libéralisme économique là, parce que ils vivent là-dessus, ils vivent.
Ah, bien sûr.
Et
oui,
alors, il y a un autre aspect aussi sur lequel j'aimerais bien t'entendre, c'est que. En fait, peut-être dans les pays du Sud-Est, le développement de l'industrie textile a permis à des femmes de travailler, oui. En très grand nombre.
Et oui,
il y a mais des dans hommes, bien camp... sûr, mais aussi beaucoup de femmes.
Absolument.
Alors, ça a permis industrie. De les faire rentrer dans la production et de leur donner des ressources.
Tout à fait. Non, mais on est d'accord là-dessus. Mais la question, c'est dans quelles conditions on les fait travailler, ouais, ces femmes.
Ouais.
Donc ça, c'est donc on ne peut pas accepter ces conditions. Ouais. Et on soutient. Elles-mêmes sont en lutte. Et il y a des luttes syndicales, des grèves, des manifestations, y compris donc au Bangladesh, il y en a eu beaucoup à l'automne dernier.
Suite aussi à l'incendie dans l'atelier, il y avait une grave histoire.
Alors bon, il y a eu le Rana Plaza en 2013, ouais, bien sûr, qui a fait 1138 victimes, essentiellement des
incroyable,
femmes d'ailleurs.
Ouais.
Et c'est à la suite de quoi on a commencé à dire il faut réguler, on ne peut plus accepter que les multinationales fassent n'importe quoi,
ouais,
et qu'on accepte d'avoir une industrie textile qui se moque à la fois des droits humains au travail et de l'environnement.
D'accord.
Voilà, donc ouais, on est en train... On a évolué depuis. En 2017, il y a eu cette loi française sur le devoir de vigilance, qui est peu connue en France, mais qui impose à un certain nombre de multinationales françaises donc un plan de vigilance pour prévenir et réparer les atteintes aux droits humains et les atteintes à l'environnement. Donc c'est quand même intéressant, c'est quand même important. Bon, il n'y a à peu près que 200 entreprises françaises qui sont concernées par cette loi devoir de vigilance de 2017, qui a été une des dernières du mandat Hollande, donc avant l'arrivée de M. Macron. Donc, mais bon, c'est déjà un pas en avant important. Et justement, d'ailleurs, le collectif est sur étiquette au niveau national a pu contribuer à ce que cette loi voie le jour. Et voilà, nous avons été parmi les partenaires des parlementaires qui ont porté cette loi en 2016-17. Et voilà pour ça. Donc, et en plus, cette loi française a essaimé maintenant au niveau européen, puisque donc c'était au mois d'avril, il y a eu le vote par le Parlement européen et ratification par les États d'une directive sur le devoir de vigilance au niveau européen. Et d'ailleurs, cette directive instaure donc pour toutes les grandes entreprises européennes, et il y en aurait à peu près, on compte environ un millier, plus de 5000 à peu près qui seraient concernés au niveau européen, donc une obligation de vigilance en matière de respect des droits humains et environnementaux sur l'ensemble de leur chaîne de valeur, hein, donc à l'image de ce que fait la loi française, donc dans toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire depuis en haut jusqu'en bas, depuis la multinationale qui est le donneur d'ordre, jusqu'au sous-traitant qui va, l'usine qui va produire les habits. Voilà. Donc, c'est une obligation, c'est une directive importante et qui a été votée, mais avant qu'elle soit mise en œuvre, il va y avoir du temps, parce qu'en plus, il faut qu'elle soit ratifiée par tous les États membres. Mais donc c'est quand même très important qu'on soit arrivé à un texte comme ça. Donc, alors après, il y a des trous dans la raquette de cette directive. Le secteur financier, notamment, n'est pas couvert par cette directive.
Le secteur financier, c'est les banques,
C'est les banques, c'est les fonds d'investissement, c'est les assurances, voilà. Et malheureusement, c'est un très gros trou dans la raquette. Et il faut dire que la France, malheureusement, le gouvernement français actuel, donc, emporte la responsabilité, puisque c'est à son instigation que ce secteur financier a été retiré des entreprises concernées par le devoir de vigilance européen. Donc c'est très regrettable et tout à fait condamnable, mais c'est comme ça. Voilà, donc il y a des trous dans la raquette, mais il y a aussi des points positifs, puisque en matière climatique aussi, l'article 15 de cette directive prévoit que les entreprises doivent se doter d'un plan de transition climatique compatible avec une trajectoire à 1,5 degré. C'est qui est l'objectif de la COP de Paris. Donc ça, c'est bien, alors que ça n'existait pas dans la loi française. Bon, ça veut dire qu'il y a des avancées. Ça veut dire qu'également, il y aura une autorité administrative de supervision, ce qui n'existe pas en droit français, ce qui n'existe pas dans la loi française. Cette autorité de supervision, c'est très important, parce qu'elle aura un vrai pouvoir d'enquête, de contrôle et d'injonction.
D'accord. Ça veut donc dire que les entreprises ont déjà des textes qui les oblige à contrôler les conditions de production et à les adapter aux dangers nouveaux de réchauffement climatique.
Oui, voilà, sur cet aspect climatique, oui. Mais comme je l'ai dit à l'instant, cette directive qui vient d'être actée,
n'entrera
en vigueur que lorsque tous les États auront transposé dans leur droit interne. Alors, donc sur les actions en cours du collectif, cet hiver, on en a fait deux intéressantes. On a fait une soirée au Gazette Café en mars sur l'engagement citoyen, avec d'ailleurs deux membres du collectif, s'appellent José Fourneron et Guy Guyot, dont on a parlé tout à l'heure. Et également, un représentant de ATD Quart Monde et un représentant de Que Choisir. D'ailleurs, ATD Quart Monde, ils avaient deux représentants. Et Que Choisir. Voilà, c'était pour les témoigner de ce que représente l'engagement citoyen dans différents domaines, puisque ce n'est pas seulement sur la solidarité internationale, là, mais donc des témoignages sur ce qu'est aujourd'hui, et quel sens ça a, quelles difficultés on se heurte, etc. Donc ça, c'était au Gazette Café en mars. Et puis en mai, donc tout récemment, on a fait avec la compagnie de théâtre Chantier Public, qui est une compagnie montpelliéraine, qui proposait une pièce « Comment on freine ?»
Comment on freine, oui. Voilà,
comment on freine, donc comment on va décroître d'une certaine façon, ralentir en tout cas, notamment sur la consommation textile, parce que la pièce évoque justement la consommation de textile à partir d'un couple qui s'installe dans un nouvel appartement et qui est confronté à des tas de cartons, de t-shirts, de jeans, etc., et qui ne sait pas
où
les ranger. Non, ce sont les leurs, mais ils savent, ils ont du mal à les ranger, et justement ça les amène à s'interroger, mais au fond, pourquoi tous ces t-shirts et tous ces vêtements qu'on ne met pas ou qu'on ne met plus. Et donc, voilà. Et d'ailleurs, l'accident du Rana Plaza, les conditions de travail, etc., au Bangladesh et dans l'industrie textile sont rappelées aussi dans cette pièce. Donc, on avait fait déjà un partenariat au niveau national. La compagnie a joué cette pièce dans plusieurs collectifs de l'éthique sur étiquette. Et là, c'est venu enfin à Montpellier le 16 mai. On a fait d'ailleurs deux représentations. On a participé ensuite au débat avec les participants, avec le public. Donc un débat avec des scolaires, des élèves de 3e, à la cité scolaire Françoise Combes. Et puis, le soir, on a fait aussi un spectacle. Enfin, le spectacle a eu lieu aussi pour un plus grand public avec la Maison pour tous Chopin. Voilà. Donc, ça a été l'occasion d'échanger avec le public. Voilà. Donc, ça illustre un petit peu, ça vient un petit peu en illustration de ce qu'on disait à l'instant sur la régulation qui est en train de monter dans le secteur de l'industrie textile. Et je n'ai pas fini sur la régulation, puisque
Il concerne aussi l'alimentation, non ?
Oui, mais nous, on ne s'intéresse pas directement à l'alimentation. Hein. On s'intéresse au textile et donc à la consommation de textile. Mais je voudrais mentionner que tout récemment, au mois de mars, l'Assemblée nationale a voté à l'unanimité, s'il vous plaît, des mesures visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile. C'est un texte qui vise donc à réduire le nombre de modèles des marques et donc à réduire l'hyperconsommation, enfin la consommation à outrance, et donc par contre-coup éviter le gaspillage dans cette industrie textile. Quand on sait que par exemple Zara met 500 nouveaux modèles par semaine sur le marché contre 7200 par jour pour le géant Shine. Ou Chine, je crois qu'il... Ouais. Je ne sais pas trop comment il faut prononcer. Mais enfin, donc ça veut dire qu'on est dans un monde complètement fou, qui change constamment de modèle. Ça n'a aucun sens. Donc, et c'est fondé surtout sur cette exploitation des travailleurs et sur ces atteintes à l'environnement. Donc, cette loi française va renforcer le système de bonus-malus pour tenir compte des coûts environnementaux d'une production excessive. Donc il y aura une pénalité, alors que ce n'est pas encore bien déterminé, ça sera fixé par décret, mais qui pourrait atteindre progressivement jusqu'à 10 euros par produit en 2030. Bon, voilà. Et avec interdiction de la publicité pour les produits et entreprises relevant de la définition de la fast fashion. Donc, il y a encore des ambiguïtés et des choses qui ne sont pas claires qui vont être précisées et imposées dans les décrets d'application. Mais bon, c'est déjà quand même quelque chose, même si ça ne vise que les impacts environnementaux et pas les impacts sociaux. Mais enfin, pour les impacts sociaux, on a déjà la loi de vigilance qui produit des effets ou qui devrait en produire. Donc c'est quand même intéressant de voir que nos élus finissent par comprendre que on ne peut pas continuer à produire et consommer du textile comme on le fait maintenant. Ce n'est pas possible. Ouais. Ce n'est plus possible.
On a affaire à certaines absurdités du système capitaliste qui fait que on flatte finalement le désir, la volonté d'avoir du bonheur des gens en leur proposant une vague complète de produits avec lesquels ils ont l'impression de la liberté de choix, etc., etc.
Oui, c'est consommer davantage, consommer tout le temps et vous serez heureux. Ce n'est pas ça.
Écoute, Pierre, merci pour...
Peut-être deux mots sur Plastisol.
Oui, sur les actions en cours.
Voilà, les actions prochaines. Alors, il y a chaque année, au mois de novembre, un événement qui s'appelle Festisol, Festival des Solidarités, qui dure une quinzaine de jours à Montpellier, dans le festival dans lequel nous intervenons avec la Maison du Tiers-Monde des Territoires du Monde
et de la Solidarité internationale.
Voilà. Et cette année, le thème, d'ailleurs, alors comme c'est un événement national maintenant, le Festisol, le thème varie d'une année à l'autre. Cette année, c'est Environnement et droits des peuples. Voilà. Donc, dans ce cadre-là, nous réfléchissons en ce moment au collectif Éthique sur étiquette, à faire une action concernant l'extractivisme, c'est-à-dire donc les industries minières essentiellement, et la question de l'eau. Voilà, ça sera autour de ces deux thèmes, l'extractivisme et la question de l'eau, que nous allons sans doute proposer une action.
Et ces deux thèmes. Intéresse également mon domaine de militantisme, c'est-à-dire à l'appel, on s'occupe en particulier de l'Afrique, et en Afrique, il y a pas mal de contrats qui sont faits par les Canadiens, par exemple, pour l'extraction de divers minéraux. Et puis aussi, c'est l'aspect qui nous intéresse, quoi.
Et oui, et aspect dans lequel il y a aussi la question de l'impact environnemental et des violations des droits des travailleurs.
Exactement.
Parce que c'est des secteurs qui sont soumis à grosse concurrence et à moins-disant social, donc, et fiscal aussi.
Il n'y a aucune sécurité, par exemple, pour ces mineurs de fonds qui prennent des risques considérables pour sortir un peu d'or.
C'est ça. Ouais. Donc le combat pour la régulation et pour le respect des droits humains au travail et de l'environnement, concerne aussi ce secteur de l'extractivisme et des industries de l'eau.
Voilà. Donc la Maison des Territoires du Monde et de la Solidarité Internationale sera bien présente dans ce festisol et aux côtés de Éthique sur l'étiquette.
Ah oui, c'est même la Maison des Territoires du Monde qui en fait
encadre un petit peu
l'activité de ces associations membres, dont le collectif.
Voilà. Merci beaucoup, Pierre.
Merci.
Au plaisir, chers amis. Merci.